qui sont contents que les églises soient vides. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se disent, maintenant les gens sont sincères. Avant, on était obligé, on apprenait à prier en famille, on était obligé d'aller à la messe, d'aller à l'église. C'était obligatoire. Maintenant, tout est spontané. Voilà. C'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Là, vous n'êtes plus conduit à l'église. Mais alors, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Hein. Et le bon Dieu, il va devoir à chaque fois faire une grâce particulière. Comme dit saint Thomas d'Aquin, si une âme est vraiment dans la recherche, comme on dit, mais non, quand une âme veut le pourquoi de sa vie, veut entrer en relation avec Dieu, mais s'il n'a pas toutes les réponses là où il est, saint Thomas d'Aquin, il se démonte pas, il dit, Dieu lui enverra un ange. Vous avez l'eunuque de la reine. De la reine. Elle a un nom, cette reine. Il revenait de Jérusalem. C'était l'eunuque d'une reine. Il était sur son char. Et il était prosélyte juif. Alors qu'il était cananéen. Hein, il était des tribus cananéennes d'Afrique. Et il lisait. C'était un eunuque lettré, et il avait un parchemin, ça rigole pas. Il avait Isaïe, un rouleau d'Isaïe. Et là, vous avez Dieu qui prend le diacre Philippe et qui le met sur le chemin du char, et il est là, il a été transporté dans les airs. Hein. Mais vous voyez, Saint-Joseph de Compertino, lui, il y a eu des centaines de personnes qui l'ont vu dans les airs. Donc si on se dit, oh, poulalala, les actes des apôtres, c'est quand? L'an 60, l'an 80, ça a été écrit, oh oui, bon, d'accord, c'est faux, enfin c'est des inventions, tous les miracles de la Bible. Il est porté par Dieu, il est déposé sur le chemin. Candace, la reine Candace, d'Éthiopie, la reine d'Éthiopie. Ouais. Donc il est là. Et il dit à haute voix, il lit à haute voix Isaïe. Et là, Philippe, il est là, il voit un char avec, je sais pas, des bœufs, un eunuque richement habillé, et qui lit la Sainte Écriture. Il est là, il entend, et il reconnaît Isaïe, et il le voit passer. Et là, il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'autre arrête, ben, pas vraiment. Tu peux me l'expliquer? C'était le passage d'Isaïe 63 ou 53, le serviteur souffrant. Il n'avait plus d'apparence humaine, il était l'homme de douleur, il portait nos péchés. Et là, Philippe lui dit, eh ben, c'est le Messie qu'on a attendu depuis des siècles dans mon peuple hébreu, et c'est Jésus. Il a été crucifié, flagellé, défiguré à coups de poing, à coups de bâton. On oublie qu'il a reçu aussi des coups de bâton, hein, notre Seigneur. Hein. Le visage était tuméfié. Et c'est Jésus. Et il nous a prêché le baptême dans son sang. Et là, il y a un point d'eau et l'eunuque. Alors, moi qui suis croyant, si je crois que Jésus est le Fils de Dieu, et le Messie est le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé maintenant? Ben, ils ne se démontent pas, Philippe, ils descendent tous les deux, ils le baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et là, l'Esprit Saint saisit Philippe et le ramène à Jérusalem, je crois. Comment?
À
Azot, non? Ou dans une ville de Terre Sainte. Voilà. Eh bien, voyez-vous, vous avez des personnes qui sont évangélisées comme ça actuellement. Vous avez des musulmans pieux qui sont là dans une religion austère, qui a tranché avec le christianisme en l'an 600, qui a pris des morceaux de judaïsme, qui a pris des morceaux de christianisme. On prend Jésus prophète, mais on prend pas Jésus fils de Dieu. On prend pas Jésus qui meurt par amour pour ses frères. Dieu fait homme. Parole éternelle du Père, pas un engendrement physique. À chaque fois que je suis pressé, que ça va pas, que je suis obligé de prendre un taxi, comme par exemple lorsqu'il y a eu la loi martiale dimanche, là on était en, comment dire, la mairie de Paris a décidé qu'il y avait une invasion d'extraterrestres, je pense. On ne devait plus sortir de chez soi. Enfin, c'est ce qui s'est passé dimanche. Donc j'étais là, j'avais au moins 1 heure de transport pour aller à Suresnes, à la maison diocésaine de Nanterre. J'ai craqué, hein, sur mon traitement personnel, pas sur la quête, j'ai pris un taxi. Chaque fois que vous prenez un taxi, vous tombez sur un musulman. Et la plupart du temps, des musulmans qui sont très intéressés à ce qu'on entend à parler de Jésus, tout ça. Et moi, je ne manque jamais de lui dire que Jésus n'est pas seulement un prophète, il est la pensée, l'expression, la parole éternelle de Dieu, sans engendrement physique. Et pourquoi je précise ça? Parce que eux le savent tous. Tous les musulmans quasiment disent, la Trinité, c'est pas possible, comment Dieu peut engendrer physiquement, avec de la semence, comment dire, un fils. Mais par contre, ils admettent que Marie a été vierge lorsqu'elle a été fécondée. Alors par contre, c'est une fécondation physiologique, apparemment, dans la tradition musulmane, alors que la Vierge Marie est vierge et qu'elle reste vierge, dans un miracle qui est là pour nous faire comprendre que cet enfant est fils d'Adam, mais qu'il est fils de Dieu. Qu'il est quand même miraculeux, cet enfant. Sa naissance est miraculeuse. Il est sorti avec un corps glorieux qui n'a pas rompu les membranes de Marie. Pourquoi? Vous voyez, on représente la Vierge Marie avec trois étoiles, Vierge avant, pendant et après. Pendant. Pourquoi? Mais parce que Jésus est quand même pas un enfant comme un autre, même s'il a pleinement notre nature humaine. Et la virginité de Marie est symbole de notre immortalité et de la promesse de vie. Le fait qu'on ne se s'use pas, qu'on ne se déchire pas, c'est pas du puritanisme, c'est pas par puritanisme que Dieu a voulu que Marie soit vierge, c'est pour nous montrer l'immortalité. C'est pour nous montrer la vie éternelle. Il est tout à fait légitime que l'hymen soit rompu dans un engendrement, dans le mariage, dans l'amour. Il n'y a pas de péché. Oui. Mais Marie est symbole de la vie éternelle, accordée au nouvel Adam et à la nouvelle Ève. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, c'est des grandes réponses à des grandes questions quand même. Et la prière chrétienne, elle dépasse toute prière païenne. Et la prière hébraïque, elle est portée vers le Messie, portée vers le Sauveur. Ézéchiel a eu une vision du Dieu fait homme. Et les rabbins sont très 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 ennuyés d'expliquer la vision d'Ézéchiel où il voit un homme assis sur le trône de Dieu. Incandescent, lumineux, mais une forme d'homme, avec les anges tout autour. Oui. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Sa parole éternelle, sa pensée éternelle, elle est lui-même. Qui me voit, voit le Père. Il n'y a pas trois dieux. Il y a Dieu qui est, EST, Dieu qui se dit. Et Dieu qui s'aime. Et c'est cet amour extatique de Dieu qui fait que nous sommes là. Et qu'il décide de créer alors même qu'il va assumer notre péché. Vous savez, ce qui blesse Dieu, c'est pas tant la passion de son fils, c'est qu'on ne l'aime pas. Mais l'égoïsme, c'est de vouloir être aimé sans aimer. Dieu nous aime. Le péché, c'est vouloir être aimé et de ne pas aimer les autres. Si vous devez retenir quelque chose pour vous aider à prier, c'est que Dieu, il veut être aimé et il y a une exigence. Vous devez lui parler, vous devez l'aimer. Vous devez reconnaître que vous lui devez la vie. Vous devez reconnaître que vous lui devez vos parents. Oui, mais mes parents m'ont abandonné. Mes parents me frappaient. Mon père était un alcoolique qui me frappait. Toujours les mêmes exemples. Hein. Décidément, les parents ont tous été des monstres. Hein. C'est terrible. Enfin, il y en a certains qui ont beaucoup souffert de leurs parents, c'est vrai. Mais quand même, on est si malheureux que ça en tant qu'être humain sur Terre. Mais quand vous voyez des gens qui vivent par terre, qui vivent dans des huttes et tout ça, et qui sont heureux, qui sourient et qui rient, on se dit quand même, non. Eh bien, voyez-vous, Dieu veut être aimé. Il est le Tout-Puissant et il a le droit d'être aimé. Il est le Tout-Puissant. Et toute religion est fondée sur la dépendance vis-à-vis du Tout-Puissant. Et les anges reconnaissent cette dépendance. Mais ce n'est pas une dépendance tyrannique. Si vous prenez de ce fruit, si vous faites l'expérience et la science du bien et du mal, vous ne mourrez pas. Bien au contraire, il vous ment. Il veut garder son emprise sur vous. Vous serez des dieux. C'est pas un péché de sensualité. Hein. Ève était nue et y a, dans l'intégrité de la pensée humaine, on n'a pas honte d'être nu. C'est à cause de notre imagination et de notre de tentation qu'on a honte d'être nu. Et il faut respecter la pudeur, attention. Mais Adam, Ève était nue. Et Ève, c'est pas par sensualité qu'elle pêche. C'est parce qu'on lui propose de devenir une déesse. C'est ça, le péché d'Ève. Et Ève a dit à Adam, qui était dans l'intégrité, il a vu sa femme nue, il n'a pas été ému par la nudité de sa femme. Et Ève lui dit, tu vas devenir Dieu, il faut désobéir au Père. Et Adam a péché tout à fait normalement. Il a voulu être Dieu. Alors vous avez une petite tendance à dire, oui mais c'est quand même Ève qui a péché la première, donc elle doit payer un peu plus. Hein. Et puis voilà, hein, Adam ça a été quand même seulement le deuxième. Donc, de fait, hein, la punition divine c'est l'enfantement douloureux et la domination de l'homme. Mais c'est une peine. Dû au péché d'Adam et Ève. Et l'homme, lui, c'est la souffrance du travail. Ben, c'est de souffrir, de devoir vivre, en fait. C'est la paresse forte chez l'homme. Et ce qui fait que vous avez de nombreux hommes qui finissent par vouloir justement ne pas travailler, être puissants sans travailler. Eh bien, voyez-vous, si donc la prière, ça part du constat que Dieu est Dieu, et si elle est une prière obligatoire, de gratitude, et si on ne prie pas, on est des ingrats. Oui. Mais est-ce que j'ai péché? J'ai pas péché aujourd'hui. J'ai pas fait ma prière du matin, j'ai pas fait ma prière du soir. Oui, mais enfin, 2 jours, 3 jours. Et je n'ai pas fait le bénédicité. Je n'ai pas béni la nourriture que Dieu me donne. Par contre, s'il y a une famine, là, tout d'un coup, je vais peut-être commencer à prier. Oui. Si Paris n'est pas, ravitaillé pendant 1 jour, eh bien, tout le monde va se jeter sur les étalages. 2 jours, ça ne suffira pas d'avoir une cuisine remplie et des conserves dans la salle à manger. Au bout de 3 jours, Paris sans ravitaillement, on commence à s'entretuer pour se piquer la nourriture que les autres ont. Alors même qu'au 4e jour, il y a des camions qui arrivent, mais trop tard, on a tué notre voisin pour des quenelles et de la choucroute. Mais voyez-vous, la religion de base naturelle, c'est d'abord ça, c'est la gratitude. Vous devez prier le matin, vous devriez prier le soir comme des païens qui ont peur de Dieu. Et c'est vrai. Et c'est obligatoire, c'est vrai. On est ingrat à ne pas parler à Dieu. Parce qu'en plus, il nous entend tout le temps. Mais alors, si on quitte la religion rude, naturelle, frustre, et qu'on commence à découvrir la révélation, Dieu qui se révèle, qui retire tout voile, tout, et qui se montre, et qui dit, mais moi je vous aime. Je ne demande pas seulement votre amour, mais moi je vous le donne. Et je vous ai donné le premier. Je n'ai pas créé pour avoir des esclaves. J'ai créé pour avoir des enfants. Mais le péché de Lucifer, c'est... Il est très conscient. C'est l'être le plus intelligent que Dieu ait créé. Et... Donc ne dites pas que le péché, c'est par ignorance ou par... Il est là et il se dit... Je n'ai pas à rendre mes hommages à Dieu, parce que, d'abord, Dieu, il se disperse. Il aime trop. Pourquoi aimer? Moi, je prends de Dieu la puissance. Comment ça se fait que Dieu nous révèle l'incarnation? Vous avez le psaume qui dit, Dieu entre dans le monde et il dit, il introduit son premier-né dans le monde, et il dit aux anges, adorez-le. C'est le lieu théologique retenu par la tradition théologique, hein, la plus forte et la plus ferme et la plus longue, sur l'origine du péché des anges. Une vision de l'incarnation. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Dieu va s'unir à ça. À de la matière. A du calcium, a du fer, a du manganèse, a de l'hydrogène, a de l'oxygène. Bon, c'est joli à admirer dans le cosmos, mais enfin, Dieu qui fait... Enfin, il se fait panthéiste, c'est indigne, il crée une drôle de religion. Le panthéiste, lui, c'est... La vie est trop dure. Je veux me fondre dans la nature et oublier d'être, ne plus être. Il n'y a pas de Dieu personnel. La vie est trop... la vie est souffrance. Je veux rejoindre la pierre, rejoindre l'arbre, rejoindre le nuage et ne plus avoir d'existence personnelle. Et votre papa et votre maman, et ben eux aussi se sont désintégrés. Ils sont heureux, je serai heureux. Ben c'est bien difficile, vous savez, comme religion, hein, le panthéisme. Hein. Bouddha, il a essayé, hein, et ben tous ses disciples le prient comme un dieu, lui demandent de revenir toutes les 5 minutes. C'est le petit véhicule, le grand véhicule. Il y a des statues incroyables à Bouddha, tout ça. Enfin, voilà, il respecte pas parfaitement la religion que Bouddha a inventée. Pourquoi? Ben, c'est quand même difficile de se dire. Que tous les êtres qui ont vécu avant nous, on les reverra jamais. Pourtant, c'était mieux qu'un pigeon, ma maman. Et quand je vois un pigeon dans les rues de Paris, les seules traces de la création naturelle de Dieu, hein, c'est des pigeons, des arbres. Mais justement, quand je vois ce que le bon Dieu a fait, je vois l'agencement des plumes, je vois le bec, les yeux. Et puis, je me reconnais un peu. Il mange tout le temps. Si c'est un pigeon, ça pense tout le temps à manger. Il est là. Tout ce qu'il observe, c'est pour le picorer. Et puis, arrivé à un moment, il faut qu'il se reproduise. Il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi. Donc, il est là. Il a une femelle. Il gonfle son cou, qui devient multicolore. Il fait une parade très médiocre par rapport à d'autres oiseaux. La femelle s'en va, son cou redevient normal. Il envoie une autre, 5 mètres plus loin, il y va. Au bout de la 10e, bon, mais franchement. Moi, je préfère les documentaires où on voit cet oiseau qui fait un arc de cercle avec ses plumes, comme ça, et qui les tourne comme ça, comme un danseur indonésien. Ton, 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 ton. Et il tourne autour de la femelle qui est là. Médusé. Eh bien, voyez-vous, non. Pas Bouddha. Et pas les dieux hindous non plus. Mais alors, vous restreignez la prière? Ils prient aussi. Mais oui, bien sûr qu'il y a des bouddhistes qui prient. Bien sûr qu'il y a des hindous qui prient. Bien sûr qu'il y a des musulmans qui prient. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne sont pas puissants. Ils ont besoin de demander de l'aide. La prière fondamentale, c'est de demander de l'aide. Reconnaître qu'on est une créature, adorer Dieu, et demander aux puissants, aux patrons, aux chefs. Ouais. Mais ce n'est pas suffisant. Jésus nous dit, les païens, ils demandent la santé, ils demandent le vêtement. Mais les lys des champs sont mieux habillés. Les oiseaux, on leur donne de la nourriture. Il y a des folles qui répandent des graines partout dans Paris pour nourrir les pigeons. Rarement des fous. Ça veut dire que les femmes sont plus gentilles que les hommes. Elles voient ces pauvres pigeons qui meurent de froid et tombent plein de graines. Ici, il y a une dame ou un homme, je ne sais pas, mais le jour où je le chope, je vais me promener à 5h du matin pour savoir si c'est vers cette heure-là que chling, 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 dans tout le quartier. Hein. Et là, le peuple hébreu, le choix de Dieu, et un Dieu qui se fait homme. Moi, j'ai prié avec une image de la Vierge Marie à l'enfant, dans mon coin prière, alors que mes parents, qui sont encore d'ailleurs de saintes personnes, très gentilles, mais ne priaient pas en famille, n'allaient pas à la messe depuis un certain temps. Eux, ils étaient allés à la messe avec leurs parents, mais voilà, avec les soucis de la vie, avec la maison de campagne en Normandie, j'ai jamais vu mon papa et ma maman faire une prière en famille. C'est moi, quand je suis devenu séminariste, qui les ai fait prier. Et volontiers. Mon papa un peu, mais ma maman... Et donc, la prière, voyez-vous, pour moi, ça a été, heureusement, j'étais pas un petit incas. Parce que, avant que je comprenne que c'était quand même pas très très gentil de la part du prêtre de péter le sternum, d'écarter les côtes, d'arracher le cœur et de l'offrir au soleil, que le dimanche à la messe, à cette messe-là, c'était très viril quand même. Et que j'ai la grâce d'être né en 1970 pour être dans la vraie religion. Que tous ceux qui se sauvent dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans toutes les religions païennes, dans la prise en otage du judaïsme et du christianisme qu'il y a dans l'islam, et qui prient sincèrement Dieu, eh bien voyez-vous, le vrai Dieu, il écoute la prière sincère qui monte du cœur de l'être humain. Mais quand vous avez la vérité sur la nature de Dieu, comment ça se fait qu'actuellement les chrétiens ne sont pas plus missionnaires? Et c'est quand même fou. Pendant des années, pendant des siècles, on a dit aux gens, à travers le monde, jusqu'au Japon, jusqu'au fin fond de l'Afrique, Dieu est amour. Le sorcier animiste, non. L'anthropophagie, non. La guerre ethnique, non. Les offrandes d'êtres humains, non. Le peuple hébreu, il avait des peuplades. Les Cananéens, vous voyez, les Philistins, c'était eux, pour que leur Dieu soit satisfait, donc ils faisaient des sacrifices d'enfants, ils les brûlaient et tout ça. Mais ils avaient aussi cette fâcheuse habitude qu'on retrouve dans la superstition des superstitions européennes lorsqu'on voit des chats emmurés dans des maisons pour porter chance, voyez, ou demander à des sorcières tout ça de faire des incantations pour porter chance. Mais eux mettaient des bébés dans les fondations des maisons, des bébés vivants, signe de vie, de prospérité et de bonheur. Voyez. Et Dieu dit au peuple hébreu, vous allez me prendre toute cette terre, car ils ne méritent plus d'y habiter. Ils ont abreuvé cette terre du sang de leurs fils et de leurs filles. Et donc, du coup, les Hébreux ont envahi cette terre. Et quand ils détruisent Jéricho, quand ils détruisent certaines villes des Cananéens, c'est une punition divine pour ces peuples qui étaient devenus épouvantables dans leurs mœurs et dans leur religion. Ce qui fait qu'actuellement, vous voyez, la prière, elle est naturelle dans l'expression de nos besoins vis-à-vis du Tout-Puissant. Mais à un moment donné, ah, quelle consolation de prier en se sentant aimé. Vous avez des personnes qui ont prié d'une religion naturelle pendant des années, ou d'une religion plus compliquée avec de l'histoire sainte et tout ça dans l'islam. Mais quand la grâce brise le mur qui fait que Dieu est le Tout-Puissant, il est bon, il est miséricordieux, mais il est loin. Mais dès que Dieu est Père, c'est déjà quelque chose. Mais si en plus Dieu s'est fait homme, alors c'est vraiment, il est proche. Et si en plus Dieu s'est laissé tuer, c'est incroyable. Saint Pierre refuse la mort du Messie. Et Jésus lui dit, passe loin derrière moi Satan. Mais au jardin des Oliviers, dans l'agonie, Jésus ne veut pas mourir. Il n'y a pas de masochisme dans le sacrifice de Jésus. Il demande à son père, mais je dois sauver mes frères humains comme ça. Et ma mère. Et vous savez, à mon avis, dans la prière, dans l'agonie au jardin des Oliviers, Jésus a dû aussi faire pression sur son père en parlant de la Vierge Marie. Parce que le Père, lui, c'est pas que la justice. Le Père est amour, le Fils est amour, l'Esprit Saint est amour. Mais le Père est amour, hein, c'est pas le Créateur tutélaire qui délègue au Fils de payer le péché et le Saint-Esprit qui nous console. Vous voyez ? Dieu est pas trois dieux, hein, c'est Dieu est amour. Et donc, si vous voulez, quand on prie dans la foi chrétienne, ça dépasse la prière païenne, c'est sûr. Et on a une relation à Dieu qui nous porte et qui porte le monde aussi. C'est pour ça aussi que des peuples se sont convertis. Alors on va dire, oui, mais ils se sont convertis avec les canons espagnols en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils étaient 300, ils se sont appuyés sur les tribus indigènes qui en avaient marre de donner des troupes au sacrifice humain des empereurs. Et puis après, bon, il y en a qui sont morts parce qu'à chaque fois qu'un Espagnol toussait, il y avait 100 Indiens qui mouraient. La rougeole, la grippe, tout. Enfin, les pauvres, ils n'avaient aucune immunité pour tous ces microbes européens. Mais la Vierge Marie, elle est apparue à un Indien. Un Aztèque, un vrai Aztèque. Du Mexico, quoi. Saint Diego. Il a dit, tu diras à l'évêque, là, européen, capucin, là, le franciscain, tu lui diras de faire construire une église ici. Alors lui, tout fraîchement baptisé, chrétien, il va voir l'évêque, et l'évêque lui dit, lui, il veut moins faire de kilomètres pour aller à la messe. Il veut une chapelle près de son village. Et puis quand il apporte les roses, et puis quand le manteau est imprimé de l'image de la Vierge. Voilà. Mais voyez-vous, notre prière, et dans l'année on découvrira la prière liturgique, la prière à la messe. Et si vous voulez, quelle que soit la prière liturgique, la beauté de la messe, à un moment donné vous serez tout seul avec Dieu. Si vous ne savez pas prier tout seul dans votre chambre, ou à des moments dans une pièce de votre maison, ou de votre appartement, demandez la grâce d'une prière plus ressentie. Parce que la prière, elle est dans, si vous voulez, dans le fait de parler à un être invisible et d'être certain qu'il nous entend. Combien de personnes n'ont pas de réponse? Et nous, on est tellement jaloux et tellement admiratif de ceux qui ont des locutions, des paroles. Alors, la Vierge Marie vous a parlé? Un ange vous a parlé? Jésus vous a parlé? Non, mais vous êtes folle. Vous êtes fou. Moi, il m'a jamais parlé, tout ça, non, vous êtes dérangé. Et ben, parfois, le bon Dieu le fait. Et si nous ne devons pas être jaloux, on se dit, ah, si le bon Dieu a choisi de lui parler de telle manière, c'est pour une utilité, c'est pour un but. C'est pas forcément parce que cette personne est très très élevée spirituellement, hein. Mais de manière ordinaire, le bon Dieu ne nous fait pas de miracle et nous demande notre confiance, comme on fait confiance à des êtres aimés ou aimables autour de nous et qu'on leur parle. Prier, c'est parler à un être qui nous aime. Et nous verrons justement que en la personne de Jésus, Jésus a voulu que ce Dieu proche reste proche. La messe, hein, le pain, le vin consacré, Jésus présent dans l'hostie, présent dans le précieux sang, c'est la continuation de ce champ, de ce couronnement de la religion juive, qui est l'incarnation. Un Messie qui est Dieu. Et moi, à chaque fois que je vois les nombreux juifs qui sont dans ce quartier, et qui rigolent pas tout le temps, hein, franchement, il y en a qui sont aimables, il y en a quand ils me voient avec mon col romain, ils disent, je ne suis pas un fantôme. Oui, mais vous êtes un usurpateur de notre religion. Jésus est un imposteur. Mais non. Mais si. Donc, à un moment donné, voyez-vous, on a envie. Le dialogue interreligieux, c'est bien. Que je dise bonjour à monsieur le rabbin, tout ça, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut plus. Quand je vois toutes ces pratiques judaïques qui sont quand même très dures, très particulières, j'aimerais les libérer. Et puis quand je vois ces chrétiens ou ces. Qui vont jamais à la messe, qui prient jamais, c'est dur. J'aimerais les libérer de leur fausse liberté. Mais moi, je prie dans mon cœur. Moi, j'ai pas besoin d'aller à la messe le dimanche. J'ai pas besoin de prier avec les autres. Ah bon? Alors vous êtes à nouveau seul au monde? Alors parfois, c'est ennuyeux de prier avec les autres. Mais si Dieu veut qu'on prie ensemble, qu'on sanctifie un jour particulier, c'est parce que nous nous aidons les uns les autres à prier ensemble. C'est pas anodin. Et nous verrons justement que cette prière, elle se fait autour d'un être vivant. Jésus habite son Église. Il habite le tabernacle. Et ça, on le verra une autre fois. Alors, donc, la prière du matin, la prière du soir, je vous en donnerai des exemples. Et là, je voulais simplement vous distribuer pour ceux qui ont fait du catéchisme, qui sont déjà chrétiens, tout ça, c'est à apprendre par cœur. Vous n'avez jamais de mots très précis avec Jésus. C'est bien, c'est sans doute providentiel. Mais âme du Christ, c'est quand même une très très belle prière. Voyez, si vous pouvez l'apprendre par cœur. Et vous avez une autre prière que le Je vous salue Marie, qui est un peu ancienne, avec des expressions un peu des religions obligatoires, hein. Je me prosterne à vos pieds. Voilà. Mais bon, c'est le souvenez-vous. Voilà. Alors, on va terminer par cette prière. Quand tout le monde l'aura eue, moi, si j'arrive à me lever, parce que je picore comme ça. Mais je suis gros comme un pigeon ramier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Âme du Christ, sanctifiez-moi. Corps du Christ, sauvez-moi. Sang du Christ, enivrez-moi. Eau du côté du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos blessures, cachez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l'ennemi, défendez-moi. À ma mort, appelez-moi. Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu'avec vos saints, je vous loue dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire aucun de ceux qui ont eu de gros à votre protection, implorer votre assistance, réclamer votre secours, aient été abandonnés. Animés d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et baignez-les de grâce. Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Michel Archange,
priez pour nous.
Saint Eugène et Sainte Cécile,
priez pour nous.
Et nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur nous et reste à jamais. Amen.